Chapitre 12e. Se taire ou mourir. Le lendemain matin, d'assez bonne heure, Martin Huma voyait venir chez lui le chevalier Fontis. « Ils sont encore venus, » lui dit-il. « Ah !» fit Martin Huma sans plus s'émouvoir. « Je m'y attendais. » Cette fois, ils sont allés plus loin que de coutume. Ils ne se sont pas contentés de mettre sur mon bureau une enveloppe. Ils ont cloué, entendez-vous, cloué au mur, une pancarte. Parfait. La pancarte porte non plus seulement « Tahaché », mais ces mots, mort à qui a parlé, à qui parle. Le sens est clair. Et nous importe peu. Ce qui m'inquiète en tout ceci, ce n'est pas la pancarte. C'est le silence des chiens qui n'ont pas donné l'alarme, précisément. Après les expériences, je croyais mes chiens hors de surprise. C'est qu'ils ont été victimes d'un nouveau stratagème. Martin Huma réfléchit un moment et demanda. Ils n'ont pas aboyé cette nuit, pas du tout donné de la voix. Aussi, aussi, très fortement, assez longuement. Plutôt vers ce matin que dans la nuit. Puis ils se sont tus tout à coup et totalement. Parfait. Pas d'erreur possible. Et avant de les entendre aboyer, pendant même qu'ils donnaient de la voix, vous n'avez entendu aucun bruit dans la rue? Pardon, deux ivrognes, deux passants ivres et tapageurs qui se disputaient. Et qui se sont sans doute arrêtés devant votre grille? En effet. Qui se sont même attardés à hurler avec mes chiens, à les exciter, à les insulter? C'est cela. C'est bien cela. Moi, je me tenais derrière mes volets, dès les premiers aboiements, prêt à intervenir. Mais quand j'ai vu que ce n'était que de bons pochards qui se chamaillaient en dehors. Sur le chemin, j'ai sifflé mes chiens. Et lorsque Tintin et Mars se sont tus, je me suis recouché, pendant que les ivrognes allaient continuer leur discussion et leur tapage plus loin. Comme c'est nature. Eh bien, mon cher chevalier, ces tapageurs, ces bons ivrognes, étaient tout bonnement vos ennemis. Allons donc. Qui faisait ce tapage? Qui réveillait le quartier? Qui excitait non seulement mes chiens, mais tous ceux du voisinage? Parfaitement. C'est inadmissible. Pendant que Tintin et Mars se trouvaient occupés de ce côté, l'on agissait d'un autre côté, et on pénétrait chez vous. Et durant tout ce tapage, on pouvait tranquillement planter un clou. Impossible. Soupçonnant aussi quelques stratagèmes de ce genre, j'ai fait une ronde dans ma bibliothèque, j'aurais entendu. Rien de plus facile que de planter un clou dans un mur sans qu'on l'entende. Je suis curieux de savoir comment. Vous allez vous en rendre compte immédiatement. » Martin Huma sortit de son cabinet de travail, puis revint peu après, tenant une boîte à outils. « Voilà, » dit-il, « le marteau, le clou et le pousse-clou. » Le clou était un clou ordinaire, le marteau un outil en acier, et le pousse-clou, tout bonnement, un bouchon cerclé d'une bague d'acier dans toute la hauteur, en faisant un corset résistant. Un des bouts portait une rondelle en fer formant capsule, à l'autre dépassait quelque peu le liège. La capsule de fer se posait sur la tête du clou enfoncé, et on frappait du marteau sur le bout où le liège affleurait. Le bouchon, retenu par son corset d'acier, offrait une résistance énorme, tout en conservant une élasticité suffisante et en absorbant ainsi toute vibration, partant tout bruit. Le clou, sous le marteau de Martin Huma, s'enfonça dans la muraille avec autant de force, de facilité, que si sur la tête même le marteau eût donné des coups violents et sonores. « Oui !» dit le chevalier, c'est ainsi qu'ils ont dû opérer. Vous êtes merveilleux, vous savez tout. C'est fort bien, mais il a neigé. Il reste encore un joli tapis blanc dans mon jardin, et je n'ai relevé aucune trace de pas. Martin Huma sourit. Enfance de l'art que d'effacer la trace de pas sur la neige. Si un régiment passait avec des chevaux, des canons, évidemment, ce ne serait pas très facile de faire disparaître les traces du passage. La neige serait trop foulée, enfoncée. Mais pour un homme, c'est un jeu d'enlever la marque de ses pas. Vous savez aussi comment on s'y prend pour cela? Je le sais, et j'entends prouver à ces hommes hardis que nous connaissons toutes leurs ruses. » Puis, sans donner au chevalier des détails sur sa façon d'opérer, il ajouta. « Ces gens ne vont probablement pas s'en tenir là. C'est plus que certain. Je les attends ce soir. Peut-être leur prochaine visite n'aura-t-elle pas lieu ce soir. C'est trop près de ce dernier exploit. Ils vous savent trop prévenus. Je le verrai bien. Que comptez-vous faire? Je vais laisser les chiens, comme d'habitude, mais moi, au lieu de me tenir dans ma chambre, je passerai la nuit dans ma bibliothèque, avec de la lumière. Non, sans lumière, à l'affût. Quand l'individu se présentera, je sauterai dessus. » Martin Huma secoua la tête. Mauvais moyen. Il peut se faire en effet. Je dirais même plus, il est presque assuré que les ennemis ne viendront pas cette nuit. Vous croyez? Ils se diront que la réussite du coup de das de l'autre nuit, la surprise que vous avez éprouvée ce matin, vous a fait redoubler de vigilance, prendre des mesures plus sérieuses, que vous vous gardez mieux. C'est possible. Ce qu'ils veulent, c'est non seulement vous influencer, vous intimider, mais encore se montrer à moi, avec qui vous êtes en rapport, à qui vous confiez toutes ces choses, quelle est leur puissance, leur audace, leur adresse. Ils veulent aussi que je sois émerveillé, frappé et convaincu que Martin Newman n'est pas de force à continuer la lutte commencée par lui contre eux. Oui, c'est aussi une sorte de toucher à votre adresse, mais vous faites le même cas du vôtre que moi du mien. Nous sommes tous deux directement intéressés dans cette singulière affaire. Absolument. Donc, je puis vous faire une proposition que votre courage, votre décision, votre volonté ne vous empêcheront pas d'écouter. Laquelle ? Je vous demande de m'autoriser, avec un ou deux de mes hommes seulement, à venir veiller chez vous. » Le chevalier sursauta. « Permettez-moi, sans que cela puisse vous fâcher, mon cher ami, de ne pas accepter cette offre. Je m'y attendais et ne m'en formalise pas. » Puis au fond, en y réfléchissant bien, vous avez raison. Il ne faut pas qu'on me voie pénétrer chez vous, la nuit. Ils auraient l'éveil, et naturellement ne viendraient pas. Or, je tiens essentiellement à leur donner une petite leçon. Si votre courage est en jeu, mon amour-propre est également en cause. Il faut donner satisfaction à l'un et à l'autre. D'accord. Que pensez-vous donc faire ? Martin Newman hésita une minute à répondre. « Je ne sais encore, » fit-il enfin. « Mais j'agirai toutefois indépendamment de vous, à mon heure, à votre gré, pourvu qu'on ne puisse pas soupçonner ni dire que je me suis fait garder, que j'ai eu peur. » Martin Newman sourit. « Rassurez-vous, personne ne le dira, personne ne le pourra croire. « Bon, seulement, permettez-moi de vous donner un petit conseil. De grand cœur, je l'écoute. Au lieu de veiller dans votre bibliothèque, où vous auriez froid pendant la nuit, où vous finiriez par vous endormir au moment où il ne le faudrait pas, allez donc tranquillement vous coucher dans votre chambre. Mais comment saurais-je ? Qui m'éveillera ? Qui ? Mais Tintin. Tintin, mon fox terrier ? Parfaitement. Il faut qu'il se réhabilite, cet animal. C'est lui qui doit vous éveiller. Que faire ? « Voici, vous allez laisser Mars dans la resserre, mais vous prendrez Tintin avec vous dans votre chambre. »« Je couche au premier étage, Tintin ne peut pas entendre. »« Cela m'étonnerait. Dans ce cas, ce serait un mauvais chien de garde et ce n'est pas le défaut des fox terriers. »« Ni surtout de mon Tintin. Il n'est assurément pas incorruptible et un morceau de fromage a pour lui la valeur d'un pot de vin pour certains hommes. »« Mais Gruyère à part, c'est un bon gardien. »« Vous avez raison, mon cher ami, il va se réhabiliter grandement. » « Donc, je vais le garder auprès de moi durant la nuit. »« Et vous vous coucherez tranquillement. Quand Tintin vous éveillera, il sera temps de vous lever, de faire ce qui sera nécessaire. »« Bien, » fit le chevalier. « Mais vous, que comptez-vous faire de votre côté ?»« Je vous ai dit que, puisque vous ne vouliez pas de mon concours, pas de moi auprès de vous, chez vous j'agirai à mon gré, à ma façon. C'est entendu. » Martin Newman se tut un instant, puis dit au chevalier « « Est-il indiscret de vous demander si vous rentrez chez vous en me quittant ?»« Nullement, je rentre en effet chez moi. Voulez-vous me permettre de vous accompagner ?»« Vous me feriez le plus grand plaisir. »« Merci. Je ne vous cache rien et vous dis ce qui m'attire ce matin chez vous. »« La pancarte ?»« Précisément. J'ai non seulement grand désir, mais grand besoin de la voir, quand ce ne serait que pour faire la comparaison de l'écriture avec celle des suscriptions des fameuses lettres de deuil. »« Alors en route ?» Naturellement, par le plus heureux des hasards, étant venu ce matin prendre des nouvelles de mon ami Martin Newman, je fus de cette expédition. L'auto du chevalier se trouvait à la porte. À quelques pas de lui se tenait un taxi débonnaire dont je reconnus le chauffeur. Martin Newman, en montant dans l'auto du chevalier Fontis, cogna comme par inadvertance son chapeau à la portière. Il se retourna vivement et pour le ressaisir il fit un geste de la main, signe que le chauffeur du taxi ne laissa pas perdre. Car peu après notre départ, il se mettait lui aussi en route. En arrivant dans la bibliothèque du chevalier, Martin Newman, qui jusqu'ici, durant tout le trajet, avait fumé des cigarettes sans souffler mot, me laissant soutenir la conversation avec le chevalier, Martin Newman, vivement, se dirigea vers la pancarte. Il n'y toucha d'abord pas. Il se mit à étudier attentivement le clou auquel elle pendait, en se servant de sa fameuse loupe. « Oui, » fit-il, « c'est bien ce que je pensais. Il a été enfoncé comme je vous ai montré que cela pouvait se faire. » Maintenant, il étudiait la pancarte. Il la lut, la relut, l'examina silencieusement. Puis tout à coup, il poussa un cri. « Ah, voilà qui est bon pour moi !» Saisissant vivement la pancarte, il l'enleva du clou et la porta jusqu'à la baie, au jour, pour mieux la voir, l'étudier. « Qu'y a-t-il ? » demanda le chevalier. Martin Dumas frémissait. « Il y a, » dit-il enfin, « il y a le pouce. »« Le pouce ? » s'écria le chevalier, venant au roi des détectives. « J'avais compris. »« Le pouce, » fis-je anxieux, me rapprochant aussi de Martin Dumas. Lui, tenant la pancarte bien au jour, l'étudia avec sa loupe. « Oui, oui, » dit-il, « je ne fais pas erreur, je ne me trompe pas, d'autant moins que cette empreinte a été faite volontairement, et après coup, déposée-la, intentionnellement, et il faut le dire, pour moi. »« Mais quelle empreinte ?» demanda le chevalier. « Là, tenez, dans ce coin, voyez-vous cette tache, cette trace de doigt ?»« Oui, en effet. » Eh bien, cette empreinte est la reproduction exacte de celle qui se trouvait sur le bloc-notes du banquier Castagnier. »